Bonsoir à tous, bienvenue à la présentation du livre de Maurizio Ferraris, L'imbécilité est une chose sérieuse. Je suis Sara Guindani, je suis directrice scientifique adjointe du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme, avec lequel Maurizio a une collaboration depuis plusieurs années dans le cadre de l'initiative de recherche Documédialité. Maurizio Ferraris est philosophe et il est professeur de philosophie à l'Université de Turin, où il a fondé aussi le laboratoire d'ontologie qui préside aujourd'hui, à présent. Et il est un spécialiste d'herméneutique, de phénoménologie, d'esthétique. Et dans les dernières années, il a travaillé surtout sur le rapport entre la philosophie et le développement des nouvelles technologies. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'on travaille ensemble à l'initiative Documédialité. Et sur ce rapport entre nouvelles technologies et philosophie, Maurizio, qui a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, a publié notamment en français, je rappelle, TEU, Ontologie du téléphone portable aux éditions Albin Michel et Mobilisation totale aux éditions aux presses universitaires de France. Donc, ça semblerait étrange, ce livre sur l'imbécilité, pour quelqu'un qui s'est surtout consacré aux nouvelles technologies dans les dernières années. Et en vérité, le lien est très fort entre ces deux questions. Donc, peut-être on pourrait commencer de là, de ce point-là, voir comment les nouvelles technologies nous aident à devenir plus imbéciles.
Ou moins, en plus, puisque il faut partir de l'étymologie. Peut-être que pas tout le monde sait d'où vient le terme imbécile. Et c'est surprenant puisque ça vient du latin imbaculum, sans bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, sans bâton? C'est l'homme à l'état de nature. C'est que pour Rousseau, il était parfait. Par contre, il est imbécile, comme il n'a pas de bâton, pas de technologie. Donc, le paradoxe, c'est que la technologie, en même temps, nous soustrait à la faiblesse constitutive de la nature humaine, puisqu'on est des animaux bien désavantagés par rapport à d'autres animaux, et en même temps révèle l'imbécilité qui est la nôtre. Et donc, pour commencer, comme il y a toujours un problème avec les présentations des livres, c'est-à-dire que justement, les personnes qui sont présentes n'ont pas lu le livre, et voient des personnes dont une l'a même écrit et l'autre l'a peut-être lu, qui en parle. Donc il y a ces désavantages, cette injustice épistémique, disons, qu'il faudrait niveler avec une brève présentation dans laquelle il y a le contenu du livre, et puis on revient à discuter avec Sarah. Puisque, effectivement, il faut le dire, c'est quelque chose qui m'est venu un peu de l'expérience de vie, peut-être même de l'expérience autobiographique, dans le sens qu'on se dit souvent quel imbécile que je suis, quel imbécile que j'ai été. Et donc, et en plus, il y a ce risque, le premier chapitre porte justement sur le tout quoique transcendantal, c'est-à-dire il est très dangereux et on court toujours des risques à écrire des livres sur l'imbécilité. Et c'est intéressant puisque si tu écris par exemple un livre sur le racisme, il est difficile que les gens vont t'accuser de racisme. Par contre, si tu écris un livre sur l'imbécilité, tout le monde dira « Ah, l'imbécile ». Et pourquoi « Ah, l'imbécile » Parce qu'ils disent « Et qu'est-ce qu'il croit être se mettre sur un piédestal et donner des imbéciles aux autres ?» Quel type de droit transcendantal, en plus, il enseigne la philosophie, donc il croit être plus intelligent que les autres? Rien du tout. Je commence par ce tout quoique transcendantal. Je parle de l'imbécilité en tant qu'imbécile et avec une connaissance directe du phénomène. Et non seulement, même une connaissance livresque, puisque la situation n'est pas seule. Il y a pas mal de monde qui a écrit des livres sur l'imbécilité. Quand j'ai commencé à écrire ce livre sur l'imbécilité, j'ai découvert qu'il y avait une liste de gens immense qui a écrit sur l'imbécilité. C'était mon avocat qui m'appelait. Désolé, mais rien. Et donc, ça, c'est le point de départ. Il faut partir, il faut d'abord être imbécile. En plus, il y a le problème qui était, évoqué par Sarah de l'imbécilité de masse. Qu'est-ce que ça signifie, l'imbécilité de masse? Signifie que on croit, et parfois avec raison, que, par exemple, les nouvelles technologies porte à la lumière une imbécilité de masse qu'autrefois était cachée, il est vrai, mais en plus, il ne faut pas oublier l'imbécilité d'élite. On parle assez peu d'imbécilité d'élite, il se trouve pourtant que, comme les actes, les dictes des élites ont été plus documentés longtemps que les actes et les dictes des masses, on a une collection impressionnante d'imbécilités d'élite. Par exemple, Marie-Antoinette, en disant donner de brioches, c'est une imbécilité d'élite qui a été transmise par l'histoire. À l'encontre entre l'imbécilité de masse et l'imbécilité d'élite, il y a l'imbécilité comme facteur politique, on le sait bien, mais il faut vérifier. Et puis, il y a, dans un style adornien, pour ne pas oublier d'être philosophe, une dialectique de l'imbécilité, tout comme il y a une dialectique de lumière par Horkheimer et Adorno. Et pour finir, ça c'est classique, la phénoménologie de l'esprit. Alors là, c'est le développement du livre. Et très vite, je vais illustrer les points fondamentaux. D'abord, mon roman, comme vous savez, c'était écrit sur ce jeep de la 2e division blindée de l'âtre de... ce n'était pas de l'âtre de Tassigny, c'était le général Leclerc qui entrant à Paris. Alors, il y avait De Gaulle qui a vu cette écrite mon roman, et comme on sait, il a prononcé ce fameux mot qui sont parmi les plus fameux de Gaulle, qui dit « vaste programme ». En effet, il est un vaste programme, l'anéantissement des cons, puisque il y en a toujours d'autres, c'est-à-dire il faut tuer les cons en nous, hors de nous, donc c'est une hécatombe. Et on peut toujours trouver quelque chose comme le suspect, sont au moins que quelqu'un soit un con, que nous-mêmes sommes un con. Moi, en écrivant ce livre, je me suis dit, comme il y a le fumus persecutionis, de toi voir le fumus imbecilitatis, mais je croyais que c'était une invention. Non, ça existe. Ça a été traité dans un traité théologique de ce théologue de Salamanque, qui a parlé du fait que Dieu est terriblement offensé par l'imbécilité des hommes. Donc, il y a cette imbécilité théologique. Venons à l'imbécilité des masses. Le coup d'envoi, en effet, de cette réflexion sur l'imbécilité a été un passage. Un an avant de mourir, Umberto Eco avait reçu une laurea honoris causa à Turin, et il y avait d'abord un colloque, puis une très belle conférence d'Umberto Eco. À la fin de la conférence, un journaliste lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux médias ?» Il dit « Les nouveaux médias sont très bien, mais le problème, c'est qu'ils donnent droit de parole à une légion d'imbéciles. » C'est ce qu'il a dit. Au fond, ça a déchaîné une polémique médiatique immense, puisque tout le monde se sentit touché dans le vif. Est-ce qu'il fait des allusions? C'est à moi qu'il l'idée. Et cela a effacé tout le reste de la journée. De cette journée n'est resté que le fait que les nouveaux médias créent une imbécilité de masse. Mais il se trouve que plutôt, en effet, on pourrait dire, oui, là c'est le jugement que l'avocat, imaginez les autres, que l'avocat de cet attentateur d'il y a 2 ans à Bruxelles le définit un pauvre con, il a l'intelligence d'un cendrier vide, il est d'une abyssale vacuité, lui et ses compagnons ont réussi à rendre antipathique toute religion. Pour des esprits simples, l'honnête, c'est le maximum qu'ils puissent comprendre. Mais le problème, ce n'est pas seulement ceci, le fait qu'on peut devenir imbécile sur l'honnête. C'est l'honnête, c'est le fait que l'honnête représente, documente notre propre imbécilité. C'est-à-dire, là, c'était. Vous savez qu'à Byzance, il y avait cette lutte politique très forte entre les soutiens de joueurs de chevaux, il y avait les azurs, le vert, etc. On peut imaginer qu'il était des espèces de voyous, mais rien n'est resté de ce type-là. Par contre, là, c'est intéressant, c'est très, très italien, c'est cet homme que vous voyez. Dont le nom d'art est Genia Canaglia, c'est-à-dire Gennaro le criminel, qui est un soutien de l'équipe de Naples. Et il est devenu fameux dans les médias, et donc, mais peut-être que disparaîtra le monde, disparaîtront les bibliothèques, mais quelque part survivra Genia Canaglia. Et là, c'est donc le problème de la survivance d'une imbécilité qui maintenant est documentée là où, dans le temps, n'était documentée que quoi ? Que l'imbécilité d'élite, justement. Le fait qu'on peut toujours avoir des coups d'imbécilité. L'imbécilité n'est pas un état constant, c'est-à-dire on admet très bien qu'on peut avoir des coups de génie, c'est-à-dire il y a quelqu'un normal que tout à coup a un coup de génie. L'inverse se donne aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est génial et qui a des coups d'imbécilité, par exemple, sans doute Giordano Bruno a un coup d'imbécilité en se vantant trop de ses théories, là où plus astucieusement Tommaso Campanella ne s'est pas vanté et comme il est survécu, il a dit quelque chose en italien dans le texte qui porte exactement sur ce sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il pensait que j'étais con et que j'allais parler? Donc, d'une certaine manière, Tommaso Campanella donne du con à Giordano Bruno qui a parlé. En tout cas, il a survécu grâce à ce manque de coup d'imbécilité. Il y a l'imbécile des Préalpes, c'est-à-dire, ce n'est pas ma définition, mais il y a cette page merveilleuse de Thomas Bernhard dans laquelle il parle de Martin Heidegger comme de l'imbécile des Préalpes, avec des arguments qui sont fascinant et qui porte aussi sur un certain style imbécile qu'on trouve même dans les habits. Par exemple, vous avez remarqué que Heidegger est exactement habillé comme le type de sémaphore. Et je ne sais pas si a... mais il se trouve que c'est comme ça. Par exemple, là, c'est Bacon. On dirait que Bacon, c'est le créateur de savoir moderne, il est vrai, mais en même temps, Joseph de Maistre a écrit 2 livres merveilleux dont le titre est « Examen de la philosophie de Bacon », dans lequel il démontre que Bacon était un imbécile, avec des preuves évidentes. Par exemple, il y a un moment où dans l'histoire d'Henri VII, Bacon dit que le roi fait les cérémonies de Noël le 27 décembre. Alors, c'est évidemment... Et alors, on peut dire, il a découvert des choses grandes, mais il a été victime de coups d'imbécilité. On a pas mal de ce type de limites. La limite entre le génie et l'imbécilité est toujours difficile à... Et je viens vite à l'imbécilité comme facteur politique. Là, c'est une histoire merveilleuse d'imbécilité, c'est-à-dire, ça s'est passé effectivement en 1936 à Salamanque. Là, c'est Miguel de Unamuno qui, protestant contre le fait que Millán Astray, qui était le chef de la Légion étrangère espagnole, transformait des célébrations universitaires dans une espèce de manifestation fasciste. Il disait que le général Millán Astray voulait créer une Espagne qui soit semblable à lui, c'est-à-dire une Espagne mutilée. Il n'était pas très gentil, puisque, en effet, Millán Astray était plein de mutilations. Et ça a été le moment où Millán Astray a fait cet impressionnant éloge de l'imbécilité qui est justement fameux « Muere la inteligencia, viva la muerte ». Autre exemple, par exemple, « Voulez-vous la guerre totale ?» C'est la fameuse allocution de Goebbels en janvier 1943. Et notez, Goebbels était complètement conscient. Et dans son cahier, il dit « c'était l'heure de l'imbécile ». Lui aussi, il était fasciné par cette imbécilité de masse, des masses qu'il avait créées. Voilà, là c'est Léon de Grel, que comme vous savez, qui était le rexiste, le chef le parti rexiste, que, comme vous savez, est aussi le modèle de Tintin. Hergé s'est inspiré à De Grel pour... Et que Céline, le voyant à Sigmaringen, dans un château d'autre, dit « Quel est ce roi de con ?» Et voilà. Je viens à la dialectique de l'imbécilité. Tout le monde est exposé, et je trouve que le plus remarquable passage sur ce fait, c'est celui de Baudelaire, qui a ce passage impressionnant. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre, non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du décret, du remords, du beau, du nombre, etc. J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Maintenant, j'ai toujours le vertige. Aujourd'hui, 23 janvier 1962, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti passer sur moi le vin de l'imbécilité. Donc, si Baudelaire a pu sentir le vent de l'aile de l'imbécilité, on peut imaginer que ce vent touche tout le monde, puisque, justement, je reviens là où j'ai commencé. Justement, la définition de l'homme suppose la technique. Et la technique, c'est d'abord le bâton. Vous voyez, c'est la fameuse réponse que Œdipe donne au sphinx. Le sphinx demande quel est ce type d'animal que le matin marche à quatre pattes, puis à midi avec deux, le soir avec trois. Et il répond, Œdipe répond, c'est l'homme. Et l'homme, c'est donc le seul être dans la définition duquel est invoquée la technique. Et ce n'est pas un hasard que Œdipe a un bâton. Alors, ce bâton, c'est justement le bâton qui nous rend non imbéciles, c'est-à-dire doué de bâton, puisqu'il n'a pas de sens de dire d'un animal qu'il est imbécile. Dire un castor est imbécile, ça ne fait rire et c'est presque incompréhensible. Un homme imbécile, c'est la chose la plus normale. Alors, avoir la technique, c'est ce qui nous rend homme, humain, et en même temps, le problème, c'est que la technique révèle et ceci se voit de plus en plus maintenant avec cette haute documentabilité de notre imbécilité. Par exemple, autrefois, si j'ai donné cette conférence, les gens auraient dit « il est imbécile, mais on va tout oublier ». Et par contre, là, c'est enregistré, donc c'est l'imbécilité pour l'éternité. Merci.
Merci Maurizio pour cette présentation aussi panoramique sur l'imbécilité. L'imbécilité est une chose sérieuse, c'est ton titre. On parle beaucoup d'imbécilité, mais le deuxième terme du titre n'est pas et moins l'objet de discussion que le premier. Et pourtant, je me demande combien le sérieux ne participe aussi de l'imbécilité.
Ah oui, sans doute, il y a plusieurs manières dans lesquelles le sérieux peut participer de l'imbécilité. D'un côté, c'est un fait que l'imbécilité est une chose sérieuse dans le sens où a des effets, des résultats sérieux, puisque souvent on explique des actions historiques dont les conséquences sont dramatiques, avec des explications multiples, la raison dans l'histoire, ou peut-être idéologie ou autre chose. Mais il se trouve que souvent est de l'imbécilité, c'est-à-dire on trouve des raisons imbéciles qui sont... Si on regarde, là c'est un discours sérieux, puisque si on regarde la situation dans laquelle les pays européens, les nations européennes se sont plongées dans la guerre, en 1914, sans qu'il y avait vraiment une intention de l'un des autres, c'était un peu mystérieux et on pourrait dire non, là était une gigantesque imbécilité. Imbécilité, ce n'était pas nécessaire. Par contre, on pourrait trouver des raisons pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des idéologies, il y avait des mythes farfelus, mais des mythes. Par contre, c'était vraiment des équivoques, des diplomates qui ne se comprennent pas les uns les autres. Et enfin, cette scène d'imbécilité collective, et en plus avec les gens qui sont contents d'aller à la guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose de bouleversant. Donc, on peut dire, souvent, il y a des actions qui entre dans le registre du sérieux et même du tragique, qui relève de l'imbécilité. De notre côté, on peut dire que, et ça c'est, disons, de la sagesse populaire dans laquelle je trouve une vérité, c'est-à-dire que le trop de sérieux est souvent un signe inéquivocable d'imbécilité. C'est-à-dire, trouver des gens qui sont extrêmement sérieux, trouvent dans le sérieux leur propre justification, est souvent un indice, pas nécessairement, mais souvent, peut-être qu'il est imbécile, qui sait.
C'est pour ça que tu écris des livres où tu essaies toujours de faire rire le lecteur. Peut-être il y a aussi un peu de ça, la peur de devenir imbécile en étant trop sérieux. Écoute, moi je voudrais...
Mais il est vrai quand même que l'inverse aussi se donne, c'est-à-dire les gens qui rient toujours comme ça, eux aussi sont imbéciles. Donc,
il n'y a pas d'échappatoire.
Oui, exactement.
Et je voudrais revenir aussi sur le thème de l'animalité, que tu as évoqué en l'éloignant un peu de la question de l'imbécilité. En vérité, ce n'est pas la première fois que tu t'occupes d'imbécilité ou de quelque chose qui s'approche. En 1987, tu avais écrit un livre très beau, qui n'est pas traduit, si je ne me trompe, en français, qui est disponible en italien, qui s'appelle Herméneutica di Proust, où tu consacrais toute une partie à la bêtise. Alors, la bêtise, tu la définissais justement en t'appuyant sur le texte de Proust comme quelque chose qui avait une valeur heuristique, parce que les personnes très bêtes, il y avait des passages de Proust qui démontraient ça, qui soutenaient ça du moins. Les personnes bêtes sont celles en mesure de mieux révéler l'involontaire. Donc, à travers la bêtise, ce devenir animal qu'on trouve beaucoup chez Proust, il y avait une révélation de l'involontaire et donc de ce qui approche le plus la vérité. Alors, l'imbécilité, je sais que tu n'aimes pas faire des catégories de différents types de stupidité. Pour toi, la stupidité est une. Mais en même temps, là, je dirais que l'imbécilité est presque opposée à la bêtise. C'est-à-dire que l'imbécilité n'est pas du tout quelque chose qui va dans la direction de l'involontaire, mais même de la volonté, y compris la volonté de puissance. Et d'ailleurs, on prend beaucoup de plaisir à lire ce livre parce que tu n'épargnes pas beaucoup de philosophes, tu as cité le crétin des Préalpes, mais aussi tu arrives jusqu'au temps très contemporain pour balancer des collègues qui se portent très bien, qui sont vivants et très prolifiques intellectuellement, pour les marquer d'imbécilité, avec des textes à l'appui d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a un type d'imbécilité qui relève du savoir universitaire?
Ah oui, tout à fait. Il y a en plus, il y a même le terme en allemand, c'est le Fachidiot. Fachidiot, c'est le spécialiste imbécile. Mais là, ce n'est pas un spécialiste en imbécilité, c'est quelqu'un qui est tellement spécialiste qu'il est imbécile dans le reste de la vie. On le voit beaucoup dans le monde. En plus, oui, il y a cette imbécilité universitaire qui relève de la nécessité d'être intelligent. Or, on sait très bien que si quelqu'un entre dans un contexte et on lui demande « fais nourrir », c'est la chose la plus difficile du monde. Il y en a une autre très difficile qui consiste à dire « sois intelligent ». Sois intelligent, dis quelque chose d'intelligent. Et très, très difficile si on est stimulé, dis quelque chose d'intelligent. Et comme professeur, entrant en classe, c'est toujours le drame, puisque je me dis, il faut que je dise quelque chose d'intelligent, et je me demande comment, et ça fait partie de mes anxiétés. Donc, il y a cet imbécile spécialisé, cet imbécile académique dont je suis sans doute, mais dont maintenant, avec, disons, presque 40 ans de carrière académique sur mes épaules, j'ai une collection incroyable. La casuistique que j'évoquais dans ce livre, c'était minime et en plus... Mais c'est incroyable comme un savant peut être imbécile. Et du reste, par exemple, ça se le disait, je me souviens, Derrida, durant un séminaire à HSS, lisait, c'était justement un séminaire sur l'animal, et il commence à prendre... Valérie, Monsieur Test, qui commence en disant « La bêtise, c'est pas mon fort. » Et alors il dit « Qui dit que la bêtise, c'est pas son fort ?» Il se classe lui-même, finalement, puisqu'il n'y a rien de plus bête que de dire que la bêtise n'est pas mon fort. De l'autre côté, par contre, il y a effectivement cette bêtise proustienne dont tu parlais, qui est l'animal. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme bête. Vous tous savez le paradoxe que ça n'a pas de sens de dire d'une bête qu'il est bête et qu'on a plein de sens de dire d'un homme, d'un humain, il est bête. Ça fait de sens. Dire d'une bête, tu es bête, n'a pas de sens. Et les expériences de bêtises auxquels Proust fait référence sont justement les moments très poétiques en plus, où les humains, avec des bêtises, font surgir la vérité. Par exemple, il y a ces très beaux passages dans lesquels il y a le narrateur qui regarde Albertine qui dort et elle devient non seulement bête, mais végétale. Il y a tout ce commentaire de Deleuze qui dit qu'elle devient comme une espèce végétale. Ou bien, lorsque il y a cette force typisante de l'animal. Vous savez pourquoi? Par exemple, l'une des explications qu'on a du fait que les dieux égyptiens étaient des animaux, c'est que l'animal est plus universel que l'humain, puisque l'humain a toujours des caractères là où, lorsque on imagine le singe ou le chat ou l'ibis, c'est que quelque chose en général. Et donc, ce type de caractère qui émerge dans un monde qui semblait intelligent, lucide, et que par contre, c'est le bal de tête. C'est impressionnant, il y a ce passage où, à la fin de la recherche, Proust parle de la duchesse de Guermantes, qui est donc le standard absolu de l'élégance et de la cruauté, qui dit « semblait devenu un saumon ». Alors comment ça se fait que cette dame devient un saumon justement dans ce moment où tous les gens qu'il avait connus deviennent comme des automates. Il dit des poupées, par exemple, ou des bêtes. Et là, c'est la bêtise comme révélation, par contre.
Et peut-être aussi, il y a aussi dans tout savoir, disons, tout savoir est le résultat d'une bêtise localisée, c'est-à-dire d'une imbécilité plutôt localisée. Et je pense encore une fois à Proust quand il dit « cet imbécile du docteur Cottard, cet imbécile était un grand clinicien ». C'est-à-dire toute spécialisation qui est demandée par un savoir, finalement, demande qu'il y ait une invisibilité d'autres savoirs qui fait en sorte qu'on puisse être spécialisé dans cette discipline-là. Donc, il y a aussi une imbécilité vraiment locale qui est demandée. Mais, alors, tu parlais aussi de quelque chose que tu as vraiment dit un peu de survol, et je souhaiterais te soumettre ce passage, encore une fois un passage littéraire, cette fois-ci ce n'est pas du Proust, mais un autre grand, que tu n'as pas cité dans le livre, mais je pense que ça va te parler, un passage magnifique de Balzac. « Frénophère contempla son tableau pendant un moment et chancela. Rien, rien. Et avoir travaillé 10 ans, il s'assit et pleura. Je suis donc un imbécile. » Un fou. Je n'ai donc ni talent ni capacité, je ne suis plus qu'un homme riche qui, en marchant, ne fait que marcher. Je n'aurais donc rien produit. Il contempla sa toile à travers ses larmes, il se releva tout à coup avec fierté et jeta sur les deux peintres un regard étincelant. Donc je me demande, tu l'as abordé tout à l'heure lors de ta présentation, est-ce que le génie aussi n'a pas un certain rapport avec l'imbécilité? À ton avis, quel est ce rapport? Éventuellement, le génie et la création aussi artistique.
Oui, je trouve que on insiste souvent sur cette analogie qui est en plus douteuse entre génie et folie. Là où, je crois, le nexe entre génie et imbécilité, il est bien plus fort parce que c'est comme si le génie est quelqu'un qui perçoit avec une évidence plus nette ce manque de bâton. Il est particulièrement dépourvu de bâton. Imagine la définition du poète dans Baudelaire. C'est justement quelqu'un qui ne sait pas marcher. C'est comme c'est la malédiction de la mère du poète d'avoir cet imbécile comme fils. Et je n'ai pas cité ce très beau passage de Balzac, mais j'ai cité un passage du chef-d'œuvre absolu de Fitzgerald, que sont ses dernières contes qu'il a publiés avec le titre de Crecap, la fêlure, qui était en plus commenté par Deleuze aussi, et qui est incroyablement beau, puisqu'il montre comme il a failli, et il a failli d'une façon imbécile. Il a détruit sa vie d'une façon imbécile et analyse cette imbécilité avec une lucidité incroyable. Et je trouve que Deleuze a raison de dire que l'art de Fitzgerald trouve son moment le plus haut dans ce conte tardif, puisque au fond on voit toujours dans Fitzgerald l'image, et c'est le poétique, l'image de cette destruction. Seulement, en ce moment, ce n'est plus Gatsby, c'est lui-même le fou.
Nous pouvons peut-être ouvrir le dialogue avec la salle, s'il y a un micro qui circule.
Merci à tous les deux pour ce dialogue. Maurizio, tu t'es beaucoup occupé des nouvelles technologies. Et donc, je te demande, tu penses que ces nouvelles technologies ont une spécificité par rapport à l'imbécilité, ou la technologie est toujours nouvelle, disons, à chaque époque? Et donc, elle se rapporte à l'imbécilité dans une manière historique. Donc, est-ce qu'il y a une imbécilité spécifique pour les nouvelles technologies de notre âge?
Moi, je crois que c'est l'hypernésie, la spécificité de nos technologies, et c'est ce que disait Eco, faisait référence justement au fait que autrefois les imbéciles parlaient au bar après deux verres de vin, et puis on les faisait taire, et bon, le jour suivant tout était oublié. Maintenant, non, parce que tout est enregistré, tout est posté, et il y a une croissance immense, non de l'imbécilité, puisque justement je suis convaincu que même Cro-Magnon, il y avait des imbéciles, ou à Lascaux, dans la cave, devait y avoir des imbéciles. Je peux très bien imaginer des imbéciles de l'âge néolithique. Et seulement, ils n'ont pas laissé de traces, tandis que les nouvelles technologies multiplie les traces et donc statistiquement multiplie l'imbécilité, puisque il y a évidemment, mais c'est si on peut dire quelque chose d'intelligent, c'est justement puisque en principe il y a une masse d'imbécilité ou de bullshit ou de n'importe quoi qui nage sur le monde. Au fond, cette théorie de Foucault dans l'ordre dans l'archéologie du savoir, où il dit, regardez, vous croyez que on dit des choses nouvelles à tout moment? Non, il y a seulement très peu d'énoncés qui changent les choses, le reste c'est répétition. C'était dire d'une façon très polie, vous êtes des imbéciles, ce que le reste, je crois, était très conforme à l'esprit de Foucault, c'est-à-dire, vous êtes, on est des imbéciles, la nouveauté, quelque chose de rare, le reste, c'est Bouvard et Pécuchet.
Oui, merci, merci Maurizio. J'avais une question. Un collègue, il y a 30-40 ans, économiste et philosophe, Pavel Pelikan, disait que la proportion d'imbéciles était la même dans tous les pays, c'était la propension à leur donner de l'importance qui changeait dans les sociétés. Donc, est-ce que tu penses aujourd'hui, il y a une distribution d'intelligence absolument qui est transfrontière, transraciale, transgenre, donc il y a une même proportion, on va dire, d'idiots ou d'imbéciles absolument partout, mais c'est la propension que les sociétés ont à leur donner de l'importance. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que la multiplication ou la démultiplication de la documentation de l'imbécilité va niveler les différences justement qu'il pouvait y avoir culturellement ou sociétalement à donner de l'importance à l'imbécilité.
D'un côté, c'est très intéressant qu'il était un économiste, parce qu'il se trouve que les économistes sont extrêmement intéressés à l'imbécilité, puisque, en plus, Carlo Cipolla, qui a écrit ce livre fameux sur les règles fondamentales de la stupidité humaine, donc la définition, il donne une définition très belle, puisqu'il dit que le stupide, c'est ce qui crée des dommages aux autres sans avoir des avantages pour soi. Et donc là, c'est la définition. Et il était un économiste, donc il faudrait réfléchir sur l'économie qui n'est pas seulement le savoir triste, mais en plus, c'est le savoir qui se mesure continuellement sur l'imbécilité. Donc, puisque on sait très bien que c'est surtout dans l'argent qu'on est imbécile, c'est-à-dire dans nos comportements économiques sont ceux qui sont le plus influencés par des bias qui font qu'on est tous imbéciles. Peut-être qu'on va arriver à démocratie, une globalisation de l'imbécilité, d'une imbécilité mondialisée. Je crois que oui, c'est-à-dire, par exemple, c'est un passage un peu trop simple et simpliste. Mais finalement, on aurait imaginé comme italien que quelqu'un comme Berlusconi était destiné à être un unicum dans l'histoire mondiale. Or, il se trouve que le président des États-Unis semble relever de cette même ligne. Donc, on pourrait parler de ce type de globalisation, de mondialisation.
Oui, tu as mentionné cette définition de Cipolla, mais est-ce que tu as une définition à toi de l'imbécilité? Parce que dans le livre, c'est plutôt du côté des exemples. Donc l'imbécilité, c'est comme ça, ou on part avec... Ouais. Mais je ne sais pas la question philosophique de l'origine de Socrate. Il va demander qu'est-ce que c'est le courage, qu'est-ce que c'est la pitié, qu'est-ce que c'est la vertu. Est-ce qu'on peut faire une analyse comme ça et essayer de dire qu'est-ce que c'est l'imbécilité?
C'est un membre du Labonte, laboratoire d'ontologie que te le demande. Donc,
il faut imaginer que quelqu'un va chez Socrate et lui demande qu'est-ce que l'imbécilité. Et s'il répond justement avec des exemples, il dit non, tu devais donner le concept. Et malheureusement, je n'ai pas que des exemples et, je vais répondre plutôt dans une manière wittgensteinienne. L'imbécilité, c'est une forme de vie. C'est-à-dire, est un jeu de langage. C'est-à-dire, il y a ce jeu de langage imbécile, cette forme de vie imbécile, qui se manifeste à traits ou bien d'une façon continuelle. Mais je dirais plutôt, pour donner une définition, c'est une forme d'inadéquation. Et cette forme d'inadéquation, elle est constitutive de l'humain. Donc, l'imbécilité, elle est constitutive de l'humain. Il reste que, empiriquement, on sait qu'il y a des imbéciles plus imbéciles que d'autres, et donc des inadéquats qui sont plus inadéquats que d'autres. Mais je dirais que c'est plutôt sur le registre de l'inadéquation. C'est pour ça que, parmi toutes les définitions, j'ai élu l'imbécilité à cause de l'histoire du baculum.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour cette conférence. Donc moi, j'ai une question qui va peut-être partir un peu dans tous les sens. Mais quand on voit Donald Trump, quand on voit effectivement Berlusconi, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a quand même un projet mondial de créer de l'imbécilité au niveau des masses populaires en montrant l'exemple avec des élites qui sont à cette image. Et est-ce qu'il y a un projet de créer de l'imbécilité ou de la débilité, je ne sais pas, via l'alimentation industrielle, via ce qu'on nous donne à manger, via... Est-ce qu'il n'y a pas un petit package qu'on nous a infusé, selon vous ?
Vous êtes trop optimiste, puisque, puisque vous imaginez qu'il y a un génie, bien que malin, qui est un génie du mal, qui organise tout cela et qui dit « Maintenant, pour imbéciliser l'humanité, il faut leur donner des mauvais exemples. Prenons donc Trump et Berlusconi et ils vont devenir imbéciles. » Malheureusement, je crois que ce malin génie n'existe pas et que plutôt les gens sont imbéciles et choisissent quelqu'un qui est imbécile comme eux.
Merci beaucoup. Vous pouvez peut-être répondre quand même à cette question. Pourquoi est-ce que ça semble devenir à la mode en ce moment de parler de bêtises et d'imbécilité plus qu'il y a 10 ans, par exemple? Je vois que les entretiens du nouveau monde industriel, Stiegler, le 19 et le 20 décembre prochain, la bêtise et l'intelligence artificielle. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai regardé tout de suite la liste des participants. Des intervenants, 19 intervenants, une femme. Alors évidemment, je râle. Alors, en disant, est-ce que c'est délibéré, une petite erreur, en tout cas, une belle forme de bêtise, avec ou sans intelligence artificielle. Et du coup, je me suis dit, à tous les coups, on va me dire, mais comme d'habitude, on a cherché, on n'a pas trouvé de femme pour intervenir sur le sujet. Donc je fouille, moi je suis ingénieur en télécom, ex-vice-président de France Télécom dans America, donc pas du tout dans le domaine, je fouille et je tombe tout de suite sur Belinda Cannon, la bêtise s'améliore, et je l'aime beaucoup parce que j'avais apprécié son sentiment d'imposture, et je trouve aussi Avital Ronel. Bon, et donc je me dis, mais j'ai l'impression, alors on a des imbéciles... politique, c'est un mot qui arrive maintenant très fréquemment pour de bonnes raisons, mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion du grand public un peu intéressé sur la question de la bêtise en ce moment. Est-ce que vous pourriez commenter sur ça? Merci. Excusez-moi d'avoir été longue.
Merci. Vous avez raison. Et selon moi, cela dérive du fait que autrefois, on était plus centré sur l'idéologie, c'est-à-dire plus que sur l'individu, c'était plutôt des idées partagées par des groupes. Donc, il y a les communistes, les fascistes, les catholiques. Comme maintenant, il y a cette forme de mondialisation sociale, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de grands groupes qui partagent des convictions, mais seulement moi et 10 autres en train de partager le fait que la vaccination crée des go et toutes les choses qui se passent sur des gars et toutes les choses qui se passent sur le web. Alors je trouve que on arrive à quelque chose qui est plus individuel, c'est-à-dire on peut bien sûr être, par exemple, fasciste et imbécile. Mais là où autrefois on aurait dit fasciste, maintenant on dit plutôt imbécile. D'où la réflexion sur l'imbécilité, le fait que c'est comme une individualisation de la faute.
Bonsoir. Alors, je voudrais réagir à tes propos sur ces deux personnages que sont Berlusconi et Trump, que je n'apprécie d'ailleurs pas spécialement, mais je me demande tout de même un petit peu si c'est pas ou bien leur faire trop d'honneur ou les sous-estimer en les classant ou en les qualifiant d'imbéciles ou de stupides. Et d'ailleurs, les fascistes, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler à leur égard de stupide ou d'imbécile. Donc, je voudrais avoir un peu ta pensée ou tes précisions là-dessus, parce que, bon, quand on regarde ces deux mouvements politiques et leur porteur, les personnes qui les portent et les popularisent, on peut découvrir une certaine stratégie, et ça a une certaine logique, ça a une certaine rationalité, peut-être suicidaire, mais bon, finalement, c'est lui qui se suicide. Il n'est pas nécessairement imbécile, malheureusement ou heureusement, je ne le sais pas. Et plus largement, puisque ça concerne peut-être le cas de Trump en particulier, est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce de prolifération d'affects ou d'explosions affectives, émotionnelles, et cela notamment grâce aux nouvelles technologies? Est-ce que les nouvelles technologies, tu dis que ça multiplie l'imbécilité, et c'est, je comprends le raisonnement du fait que ça reste engravé pour peut-être l'éternité, mais est-ce que ce n'est pas surtout la possibilité de se défouler dans l'instant qui est popularisée et multipliée par ces nouveaux outils?
Merci. Merci parce que ta remarque, justement, porte sur quelque chose de capital. C'est-à-dire, au fond, dire des deux politiques, ils sont des imbéciles, c'est dire n'importe quoi, puisque c'est comme les gens qui vont à une exposition d'art contemporain et disent « Ah, ça, je serais capable moi aussi de le faire moi-même » ou « Ah, les politiciens sont tous imbéciles » ou choses comme ça. Non, c'est que je disais, en évoquant l'imbécilité de Berlusconi et de Trump, c'est le fait qu'ils sont capables de polariser une imbécilité ambiante qui existe dans leurs électeurs et de réussir dans ce but. C'est un peu comme la figure de Mosbrugger dans L'homme sans qualité de musique. C'est-à-dire, il y a toute cette société viennoise raffinée, mais ils sont tous fascinés par ce criminel presque animal, comme s'ils étaient l'attraction de la vie des forêts, disons. Ceci explique pourquoi. Je ne sais pas vraiment s'il y a des grandes stratégies derrière eux. La stratégie de Berlusconi, c'était clairement de ne pas perdre son argent, ne pas finir en prison. Il a eu du succès. Je ne sais pas pour Trump, je ne connais pas bien la situation. Mais il se trouve que, au point de vue électorale, cette réussite qui consiste à faire ainsi que les gens s'identifient et disent c'est bien, tu es comme moi. Et comme, disons, la majorité des humains n'est pas composée par des génies, il faut conclure que si on s'identifie avec des gens comme ça.
Ça me semblait intéressant, si je peux juste revenir sur un aspect de la question de Christopher Polman. C'est en effet cette dimension temporelle aussi de l'imbécilité.
Ah oui, justement. Hein,
parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet aussi les nouvelles technologies nous incitent à réagir très rapidement, donc de manière très, très pulsionnelle, on dirait. Et en même temps, cet instant, c'est un instant qui dure. Comme tu l'as dit,
oui,
évidemment.
C'est...
Mais il y a peut-être aussi une nouvelle articulation des temporalités qui est assez inédite, Parce que bon, chacun d'entre nous a eu des moments de bêtises, mais ils ne sont pas restés pour autant. Qui est peut-être aussi, qui explique aussi pourquoi on est dans une époque qui est très imbécile, ou nous semble très imbécile, alors que probablement elle ne l'est pas plus que d'autres.
Non, mais justement, tu as raison. Une des possibles définitions d'imbécile, c'est quelqu'un qui dit la première chose qui lui passe dans la tête. Or, nous tous, maintenant, sommes forcés à écrire, non pas seulement à dire la première chose qui nous passe dans la tête, puisque autrement, les autres s'embêtent. Ah, il n'a pas répondu. Donc, autrefois, avant de répondre à une lettre, il pouvait passer une semaine, et en plus, il y avait toujours l'excuse que peut-être le service postal ne marchait pas, la lettre n'est pas arrivée, la lettre pouvait s'égarer, et donc, et en plus, on décidait, mais pourquoi écrire cette lettre? Donc, je renonce. Maintenant, pas. Donc, on a la nécessité de dire la première chose que nous passe dans la tête, qui n'est pas forcément la plus intelligente, et cette instantané, comme tu le disais, devient presque éternel.
Donc on est dans une autodocumentation perpétuelle de notre imbécilité, en fait.
Oui.
La qualité des programmes de cette chaîne télévisée était tellement était organisée de manière à pouvoir rendre le cerveau du spectateur disponible pour assimiler la publicité, c'est ça ? Pour être sensible et réceptif à la publicité, au message publicitaire.
Oui, non, mais je trouve que comme l'être humain est stratifié, sans doute il y a dans chacun de nous le strat imbécile. Et si quelqu'un a un channel télévisif, c'est d'abord au strat imbécile qui doit s'adresser. Ceci s'explique d'ailleurs avec le primat de l'émotion sur le raisonnement. Là, c'est l'amygdale, cette partie de notre cerveau qui est celle des reptiles, qui est suscitée par les émotions. Et ceci explique pourquoi le recours à l'émotion est tellement fort dans la télévision, dans la politique, dans toutes les instances dans lesquelles on a besoin de s'adresser à la majorité.
Oui, alors toutes les civilisations qui nous ont précédés depuis des millénaires ont toutes connu le même chemin. C'est-à-dire, il y a une naissance, une croissance, une stabilité, et ensuite c'est la descente, la chute, et une autre civilisation qui prend le pas. Donc est-ce que le crédit de l'imbécibilité n'est pas simplement des moyens d'action, une incarnation de cette phase de descente?
Je suis pas sûr, bien que je n'ai pas des évidences contre, mais comme je disais, il ne me semble que il y a plus d'imbéciles maintenant qu'autrefois. On pourrait même dire que le fait que les imbéciles ont plus de voix en chapitre, pour ainsi dire, maintenant qu'autrefois, c'est un effet de démocratisation qui révèle d'un progrès de l'esprit humain, paradoxalement. C'est-à-dire, de plus qu'on avance, de plus que les gens peuvent exprimer leur propre opinion, de plus qu'il y a la possibilité de dire des imbécilités. De plus que, par exemple, les gens s'expriment d'une façon personnelle et créative. Par exemple, autrefois, l'humanité s'habillait avec des costumes traditionnels. Donc, il n'y avait pas le problème du kitsch, puisque tout le monde s'habillait selon son rôle social. On ne pouvait pas s'habiller d'une façon mauvaise. Mais non, c'est ce qui se passe continuellement, puisque on peut toujours choisir. On peut toujours choisir ses propres idées, ce qui signifie qu'on peut toujours dire des bêtises. Si tu dis des proverbes, il est très difficile que tu dises des bêtises. Si tu essaies d'organiser quelque chose d'une façon originale, donc on peut noter que y a une espèce de compulsion à être originaux qui relève d'une grande considération de la nature humaine dans notre société, plus que dans d'autres sociétés qui étaient plus liées à la conformité. Et il est vrai pourtant que, de ce point de vue, il est très facile de dire des bêtises.
Est-ce qu'il y a un parallèle entre la Grèce antique et les Romains qui avaient des esclaves? Et nous, nous avons de la technologie, c'est une sorte d'esclave aussi sur un autre plan. Est-ce que c'est ça aussi qui crée notre chute?
Voyons. Mais je me demande en quelle façon une auto pourrait produire ma chute. Puisque, et aussi, pour les Romains, les esclaves étaient justement des assistants dans la maison ou dans le travail. Exactement, je n'ai pas compris. Vous dites que les Grecs et les Romains sont devenus imbéciles à cause des esclaves.
Non, ils ont chu, puisque leur civilisation s'est arrêtée. C'est le parallèle entre notre civilisation qui s'écroule au moment où elle a une grande technologie.
Non, ce n'est pas, c'est pas écroulé à cause des esclaves. C'est écroulé à cause du fait qu'ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient utiliser la technologie au lieu des esclaves. Et là, apparemment, ça a été le grand problème, parce que comme ils avaient déjà des esclaves, ils n'ont pas pensé à technologiser leur monde. Et là, c'était apparemment le problème de la chute des civilisations antiques, anciennes, pardon.
Je voulais savoir si vous avez lu, parce que vous avez cité des quantités de livres sur la bêtise. Est-ce que vous avez lu aussi, je crois qu'il s'appelle Carr, mais je ne me rappelle plus le prénom, pardon ?
Nicolas Carr.
Nicolas Carr.
Oui.
Internet nous rend-il bête et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'était un homme très intelligent qui écrivait ça.
Mais j'ai un peu le soupçon qu'il a été rendu bête par son livre, justement. Parce qu'il nous raconte une histoire étrange, c'est-à-dire, il dit, grosso modo, que notre capacité de concentration était complètement détruite par l'Internet, donc l'Internet nous a rendu bêtes et fait cette chose à la fin d'une assise compliquée, puisqu'il dit qu'il s'est caché pendant 5 mois dans les montagnes de Rocky Mountains aux États-Unis, sans téléphone, sans email, pour écrire « Internet nous rend stupide ». Non, il nous considère trop stupide. Parce que finalement, par exemple, Proust, dont on a parlé, était toujours en train d'aller d'un salon à l'autre à répondre des mails continuellement, puisque on avait ce petit bleu qui... et il a écrit la recherche, qui est au fond mieux que le livre de Carr, bien que...
Alors, peut-être je rappelle qu'on aura Maurizio Ferraris au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison de l'Homme pour le séminaire La Révolution Documédiale à partir du mardi 9 janvier. Et ça, tous les mardis pendant un mois. Donc, vous
deux
y êtes.
Mois.
Deux. Non, un mois et
un
demi.
Mois et quelques, oui.
Un mois et demi.
Presque deux mois.
Oui, donc en janvier et une partie de février. Donc vous y êtes les bienvenus si vous voulez continuer à discuter de ce rapport entre les technologies contemporaines et l'homme, finalement. Même si ça sera à partir de 17h30 au forum de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Voilà. Donc on remercie beaucoup Maurizio pour toutes ces réflexions.
Merci. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.